Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce studio spécialement aménagé par les équipes de nos télés au sein de Tournai Expo pour nos débats électoraux. Vous le savez, sur nos télés, c'est un jour, une commune, et ce dimanche, c'est la commune de Brunehaut.
Située à l'ouest de notre région et à la frontière avec la France, l'entité de Brunehaut, c'est la capitale wallonne des pépinières. La commune est aussi connue pour sa pierre, ses fraises et ses pommes. La population y est de 8099 habitants répartis en 9 villages. La commune se classe parmi les 5 meilleurs élèves de Wallonie-Picarde avec un taux de chômage de 6,9%. Le revenu annuel brut est lui de 18 945 euros.
Pour animer ce débat, j'ai le plaisir d'accueillir mon collègue Sébastien Lipens. Alors Sébastien, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ?
Eh bien Christophe, le débat s'articulera autour de trois thèmes principaux. Les services aux citoyens, l'aménagement du territoire, mais également un thème important pour la population, à savoir la mobilité.
Avant d'aborder ces débats, un petit coup de retour dans le rétroviseur avec l'effet saillant de cette mandature plus qu'électrique à Brunehaut.
Tensions, accusations et évictions. Brunehaut est parfois devenu un univers impitoyable pendant les 6 dernières années. En 2018, le bourgmestre pierrois, qui conforte pourtant sa majorité avec 13 sièges sur 19, c'est un de plus qu'en 2012. En face, la liste intérêts citoyens réalise le statu quo avec 6 conseillers communaux élus. Tout était donc réuni pour que la majorité puisse gérer sereinement la législature. Et pourtant, l'ambiance s'est rapidement détériorée. Fin 2020, des tensions commencent à se ressentir entre Nadia Hilali et le bourgmestre. Les Chevines soupçonnent des irrégularités administratives. La confiance étant rompue, ses fonctions scabinales lui seront retirées avant qu'elle soit éjectée en juillet 2021 et remplacée par Clara Urbain à la table du collège. La désormais ex-échevine siège comme indépendante avec François Skitz. Depuis lors, l'ambiance reste assez tendue entre les deux conseillers d'une part et la majorité d'autre part. Dans les projets de la mandature, celui qui a marqué le plus, c'est celui du Brunehaut 2. Dans le programme de la majorité en 2018, ce dossier a suscité pas mal de débats entre majorité et opposition. Finalement, 10 ans après l'inauguration du premier hall sportif communal, les premiers sportifs ont pu découvrir leur nouveau terrain de jeu le 1er mars dernier. Côté finances, la situation est plutôt stable du côté de Brunehaut.
4 partis se présentent au scrutin à Brunehaut le 13 octobre. USB, ICME, Ensemble pour Brunehaut et les Engagés. Commençons donc notre débat avec les services aux citoyens et en particulier les sports.
Eh bien oui, parce qu'on vient de le voir dans cette petite capsule d'introduction, le gros projet de la mandature, c'est le Brunehaut 2 qui vient compléter le premier hall sportif 10 ans après son lancement. Pierre Wacquier, on se dit aujourd'hui qu'on a assez d'infrastructures sportives pour Brunehaut ?
Nous n'avons jamais assez. D'abord, bonjour à tout le monde, à toutes et tous. Nous n'avons jamais assez d'infrastructures, en fait, parce que la demande est présente. Mais il est bien évident qu'avec la construction du Brunehaut 2, nous assouvissons les besoins de l'entité, mais aussi de l'ensemble, enfin d'une partie de la région en tout cas, et surtout la multiplicité des disciplines. Puisqu'on peut y faire toute une série de choses.
Jamais assez d'infrastructures sportives, mais pas de Brunehaut 3 à l'horizon.
Non, tout de même pas. Restons raisonnables. Nous sommes une commune rurale et je pense que l'offre est déjà très importante.
Pierre Gérard, c'était un dossier assez clivant, notamment en raison du budget. C'est quelque chose qui vous a inquiété, ça, à un moment durant la mandature ?
Mais qui nous inquiète toujours. Parce que, bon, il faut savoir que le financement du fonctionnement de Brunehaut actuellement n'est pas tout à fait connu. D'ailleurs, ça fait un bout de temps qu'il n'y a plus de conseil d'administration, depuis le mois de mai. Donc on sentait que le budget n'était pas idéal et qu'il y avait certains risques qui, à mon avis, s'avéreront vont arriver, donc notamment des recettes qui n'arriveront pas. Et donc je pense que la commune va devoir de nouveau remettre la main à la poche pour le fonctionnement de ce hall qu'on nous avait promis comme étant une opération presque neutre.
Au-delà des recettes et des budgets, de ce qu'on peut en tirer. Maintenant, les infrastructures sont là, elles sont sur place. Votre souhait pour l'avenir, vous l'avez notamment mentionné dans votre programme, c'est de pouvoir profiter des jours blancs pour faire justement découvrir ce site aux plus jeunes de l'entité.
Oui, notamment les adolescents qui sont parfois un peu désœuvrés dans les jours blancs, pour qui il serait intéressant d'offrir cet accès de manière gratuite pour qu'ils puissent, par exemple, s'initier à certains sports qu'ils ne connaissent pas ou d'autres choses.
Alors au niveau d'ensemble pour Brunehaut, est-ce qu'il faut continuer finalement à centraliser toutes les infrastructures en un même lieu ?
Non, pas pour nous, pas forcément. En fait, aujourd'hui, ce qu'on constate par rapport au Brune Hall, c'est que l'offre n'est pas si diversifiée que ça, et on n'est pas allé vers une diversification de l'offre. Là est le problème. Et donc, aujourd'hui, on a des clubs de sport, de foot, qui sont demandeurs, et il serait intéressant de savoir s'ils utilisent le Brune Hall 2, je ne pense pas. Et nous rejoignons également IC dans l'inquiétude que nous avons par rapport à la gestion financière de ce Brune Hall 2. On a notamment eu connaissance d'amendes de 50 000 euros. Ici, il y a quand même 50 000 euros à payer en plus pour tout ce qui est du deuxième Brune Hall. Et on voit que les rentrées financières ne vont pas forcément dans ce cadre-là.
Pierre Wacky, on peut peut-être rassurer sur l'état des finances de ce site ?
Tout à fait, c'est le dossier Fédris et ce dossier, naturellement, il n'y a eu aucune amende et ce dossier a été classé, tout simplement. Donc cette amende n'est plus d'actualité, Madame Hélène.
Oui.
Nous déplorons alors que la transparence ne soit pas de mise et que les documents ne nous soient pas remis pour vérifier la certitude.
Très bien, Charles Desseveaux, votre point de vue, le point de vue des engagés par rapport à ce dossier entre finances, infrastructure et utilisation du site.
Au niveau de l'infrastructure, pour les engagés, on est très content que le Brune Hall 2 est sorti de terre, mais on voudrait une meilleure gestion au niveau du Brune Hall pour que tous les sports puissent être représentés au sein des différentes plages horaires. Parce qu'actuellement, certains clubs ont des difficultés à pouvoir accéder au Brune Hall, contrairement à d'autres. Et donc oui, c'est vraiment une de nos priorités, c'est vraiment la gestion du Brune Hall à remettre un peu en question.
Et comment on peut garantir ça ? Une idée ?
Non, mais je pense qu'il faut vraiment revoir en fonction des besoins des différents clubs et en fonction aussi des plages horaires qu'on a déjà octroyées aux autres. Et je pense qu'on doit vraiment faire un combo de tout ça et surtout en collaboration avec tous les clubs sportifs de l'entité.
Pierre Gérard, vous pensez que c'est possible de répartir autrement les heures d'utilisation ? Est-ce qu'il y a des clubs qui ne pourraient plus l'utiliser pour permettre à d'autres qui sont pour l'instant n'ont pas l'occasion de s'entraîner là-bas ?
Mais j'entends aussi que certains clubs voudraient s'entraîner là-bas mais ne le peuvent pas. Maintenant, comme je vous dis, depuis le mois de mai, nous n'avons plus aucune vision sur ni les finances, ni le remplissage du hall. Donc je suis content que le bourgmestre qui n'est pas dans le conseil d'administration soit mieux au courant que moi, qu'il suit, théoriquement. Mais voilà, on n'a aucune vision actuellement de comment il est rempli ou comme on n'a rien.
Pierre Wacky, je reviens vers vous. Quand on voit le coût d'infrastructures comme le Brune Hall, est-ce que ce n'est pas vraiment des matières pour lesquelles serait intéressant de collaborer avec des communes voisines ? Il y a un hall des sports qui se crée à Rhume. On a entendu lors du débat sur Antoin que les citoyens d'Antoin seraient intéressés par utiliser le Brune Hall. Est-ce qu'il n'y aurait pas matière à une supracommunalité pour gérer ensemble et financer ensemble alors ces halls ?
En tout cas, la participation, c'est déjà le cas, puisqu'il y a 1500 personnes, 1500 usagers par semaine qui fréquentent ce hall. Le nombre de disciplines est important. Et de plus, l'ensemble du sport sur l'entité, je pense que les terrains de football sont aussi un souci permanent au niveau de la commune, notamment au niveau de la logistique qui est suivie, l'entretien des terrains. Donc tout cela forme un ensemble qui fonctionne bien, surtout qu'il y a des stages aussi bien pour les tout jeunes que pour les aînés. Donc il y a vraiment toute une tessiture de citoyens qui peuvent participer. Il y a les clubs, mais il y a aussi les citoyens qui peuvent s'intégrer dans cette infrastructure. Et forcément, nous accueillons des clubs extérieurs, mais nous accueillons aussi des citoyens extérieurs.
On continue à parler sport. Charles Desseveaux, dans votre programme désengagé, vous voyez la construction d'une piscine. Est-ce que finalement, c'est bien raisonnable pour une entité comme Brune Hall de bénéficier de sa propre piscine quand on sait les coûts que ça peut éventuellement engendrer ?
C'est vrai que la piscine est un gros projet et ce n'est pas un projet dans le vent qu'on veut faire. C'est vraiment un projet qu'on voudrait faire en collaboration, notamment, on a parlé de la supracommunalité. Pourquoi pas avec Rhume, pourquoi pas avec Antoin ? Parce qu'on sait qu'en cas de supracommunalité, on peut chercher une enveloppe subsidiaire beaucoup plus grande. Et donc, je pense qu'on doit vraiment... justement faire cette supracommunalité pour pouvoir offrir un service en plus aux citoyens, parce que quand on discute avec eux et qu'on demande qu'est-ce qui manque au niveau du sport au-delà des plages horaires du Brune Hall, c'est le manque d'une piscine, parce qu'on doit aller où ? On doit la tourner, on doit la Saint-Amand, et pour des citoyens de Brune Hall, ça peut paraître loin, et nous on veut offrir un service directement aux citoyens à Brune Hall, ou peut-être en bordure de Brune Hall sur Rhume ou sur Antoin.
Et vous la voyez où alors du coup cette piscine ?
Ça dépend, c'est des discussions qu'on aura avec les différentes communes. Pour l'instant, on lance le projet, on a un projet complet là-dessus, et pour l'emplacement, on verra plus tard.
Madame Ilali, c'est quelque chose que vous pourriez soutenir, la création d'une piscine dans l'atelier de Bruno?
Alors, ça me paraît un peu utopique quand même, parce qu'effectivement, la construction d'une piscine, c'est un coût qui est quand même assez exorbitant. Et donc, nous, on serait plus pour privilégier les collaborations avec les entités voisines. On a des piscines aussi privées qui se trouvent sur les entités voisines. On pourrait très bien collaborer avec elles. Saint-Amand n'est pas si loin que ça. Et on privilégierait plus un transport qui pourrait nous permettre d'aller vers ces piscines plutôt que de construire une piscine qui risque d'être un gouffre financier.
Pierre Gérard, quel est l'avis pour ICMR? Vous pointez dans votre programme un problème d'accessibilité aux piscines pour les écoliers.
Justement, il n'est pas admissible que les écoliers d'école primaire n'aillent jamais à la piscine. C'est quand même quelque chose de fondamental à enseigner, c'est l'aisance dans l'eau. Mais par contre, je rejoins plutôt Nadia, parce que la construction d'une piscine, sa construction peut être subsidiée. Maintenant, il ne faut pas oublier les coûts de fonctionnement, qui sont assez exorbitants. J'ai déjà eu l'occasion de superviser des dossiers de piscine. Ce n'est jamais rentable, ça c'est clair. Et la commune doit de nouveau mettre la main. Donc si c'est un dossier, il faudra vraiment l'examiner de manière très très approfondie avant de se lancer.
Charles Desseaux, vous vouliez réagir?
Je suis d'accord sur le coût de fonctionnement d'une piscine. Tout le monde sait qu'une piscine coûte très cher. Et donc nous, ce qu'on propose aussi, c'est des projets qui existent déjà en France, c'est de combiner à cette piscine une unité de biométhanisation qui permettrait de produire une chaleur qu'on pourrait directement réinjecter au niveau de l'infrastructure de la piscine et qui permettrait aussi de réduire les coûts. En France, ça existe et nous, on voudrait développer ce genre de projet-là pour les Brunetois. Parce que oui, il y aura un coût de fonctionnement, ça c'est sûr. Mais alors si nous, en tant que commune, on ne peut pas payer quelque chose pour nos citoyens, qu'est-ce qu'on fait là?
Et de voir plus large avec les agriculteurs alors du coup?
Avec les agriculteurs, avec les particuliers, avec les pépinières. On l'a dit tout à l'heure, on est la capitale wallonne des pépinières. Ben, il faut mettre tout le monde, dans le même panier, mais au travail pour ça. Et c'est un service en plus et pas des moindres pour la population.
Alors nous avons fait un bon petit tour des infrastructures sportive à Bruno. On va peut-être parler maintenant d'un autre service aux citoyens, les infrastructures culturelles. Et je me tourne vers Ensemble pour Bruno, parce que vous évoquez la possibilité de créer un centre local multiculturel. Où serait-il localisé? Quelle serait sa fonction?
Alors, on n'est pas parti sur le fait de se dire où va se localiser le centre multiculturel, mais on est parti du fait de se dire que la culture doit être dynamisée. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont été faites par rapport au sport, mais la culture est le parent pauvre. Et donc, il faut aujourd'hui penser à la dynamisation de la culture. On a la SBL Bruno Valorisation, mais on reste très limité. On parle du concert de Noël ou encore de la journée des artistes, mais ça reste très limité. Quand on a voulu dynamiser la SBL, on nous a très vite demandé d'arrêter ça. En tout cas, on nous l'a fait sous-entendre. Et donc, à un moment donné, il faut prendre les choses à bras-le-corps par rapport à la culture, il faut dynamiser la culture et il faut fédérer nos citoyens. Donc, on a plein de richesses au sein de Bruneau qu'on peut fédérer et qui ont envie d'y travailler. On a effectivement... une idée. On a des salles qui ne sont pas forcément utilisées. On a même des salles privées pour lesquelles il serait peut-être difficile d'effectuer des travaux. Et un partenariat privé-public pourrait être envisagé.
C'est déjà bien étudié en tout cas. Pierre Wauquiez, je vais vous faire réagir par rapport à ces propos. La culture, c'est le parent pauvre de Bruneau?
Je ne pense pas, bien au contraire. Il y a une foule de stages qui existent et ces stages combinent en général le sport avec la culture. Et donc ça permet justement d'avoir un brassage. De plus, l'SBL Bruno Valorisation a pris un essor qui est de plus en plus important et qui offre justement ces possibilités culturelles. Il y a également le Centre d'histoire locale de Bruneau. Donc il y a toute une série de choses qui sont présentes in situ, dans l'entité. Mais il y a également des collaborations qui sont envisagées avec des centres culturels qui sont agréés et qui, à ce moment-là, peuvent faire de la programmation. Et le but, c'est d'apporter, de permettre aux citoyens d'aller vers cette programmation.
Monsieur Gérard, pour vous, dans votre programme, je ne vois pas de structure culturelle, mais par contre un soutien à ce qui existe, aux événements, aux activités culturelles. C'est dans cette optique-là que vous voulez développer la culture sur Bruno?
Ben oui, parce que je trouve que c'est un petit peu réducteur de limiter l'activité de la SBL Bruno Valorisation au concert de Noël et à la journée de l'artiste. Donc il y a quand même pas mal de collaboration également avec le centre de lecture publique, donc la bibliothèque, je pense qu'on a quand même développé pas mal de choses et évidemment, on ne doit pas s'arrêter là. Il faut continuer à développer ce genre de collaboration. Il y a quand même eu des choses pour les enfants, pour des soirées contes, pour les enfants, des choses comme ça. Évidemment, il faut. Mais on est plus au soutien des événements locaux. Et puis, il y a la culture, ça ne se limite pas non plus à. C'est aussi les activités locales, comme Asso à Pipe, par exemple, ou d'autres. Voilà, donc je pense qu'on a quand même pas mal de choses déjà dans la commune qu'il faut soutenir pour que ça se pérennise et ça augmente.
Si je vous entends les uns et les autres, donc il y aura un peu plus de culture à Bruneau sous la prochaine législature, d'une manière ou d'une autre, par des infrastructures, par des stages ou par des festivités. Je pense qu'il est temps de passer à un autre sujet, celui de l'aménagement du territoire. Alors, l'aménagement du territoire a fait beaucoup parler de lui à Bruneau, avec notamment l'écoquartier à Aulin. C'est un projet d'une trentaine de logements à la rue du Marais. Peut-être un petit tour de table, pour ou contre ce projet, Madame Ilali?
Contre.
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 Il n'est plus d'actualité.
Donc, on peut déjà être sûr d'une chose, si je vous entends, ce projet ne se fera pas, puisque tout le monde est contre.
Il n'est plus d'actualité parce que le schéma de développement territorial a rebattu les cartes. Donc, nous avons toujours besoin de logements. C'est un bel endroit pour, justement, en cœur de village, faire du logement. Mais le SDT, comme on dit, a rebattu les cartes. Et donc, ce projet privé, nous attendons un retour et une nouvelle proposition.
Eh bien, vous anticipez la question de nos confrères de l'avenir, puisque ça va traiter de cela. Est-ce qu'il faut des projets immobiliers importants à Bruneau? C'est la question de l'avenir.
En soutenant et en acceptant divers vastes projets immobiliers sur son entité, notamment rue du Marais, ne craignez-vous pas que la commune perde un peu de sa ruralité?
Bon, Pierre Wacky, vous parlez d'un projet abandonné, vous dites que vous attendez tout de même des retours. Est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné une crainte que Bruneau perde finalement sa ruralité?
Mais quelques chiffres éloquents. Hein. Nous avons 85% de notre territoire qui est couvert par de l'agricole, donc la terre aux agriculteurs, par des forêts, par des parcs, par du verre, et 15% réservé aux zones constructibles. On ne sort pas de ce schéma, nous protégeons vraiment notre ruralité profonde. Et donc, ces projets sont parfois nécessaires. Maintenant, encore une fois, tout est rebattu parce qu'il y a ce schéma de développement territorial qui est sorti des tablettes du ministre Borsu, qui a été voté et dont l'application est difficile. D'ailleurs, je pense que quasi à l'unanimité, le Conseil communal a voté contre ce projet de schéma de développement territorial. Donc, attendons. Mais il est bien évident que nous avons, je vous donne un chiffre, 182 permis pour nouvelles constructions qui ont été lancés sur la législature, près de 600 permis pour des réhabilitations. Donc le bâti est bon chez nous et on n'essaie pas de l'étendre, mais la demande est présente et on restera dans le plan de secteur qui protège les cœurs de village.
Nadia Ilali, vous prenez plutôt une urbanisation raisonnée. Ça veut dire quoi, ça, concrètement?
La préservation de notre ruralité, justement. Notre ruralité, c'est l'ADN de Bruneau. Si les gens viennent aujourd'hui s'installer à Bruneau, c'est par rapport à son cadre de vie et par rapport à cette ruralité. Et donc, il faut absolument la préserver. Donc, aujourd'hui, des projets comme l'écoquartier, le Marais des Pins, n'ont pas leur place au sein de Bruneau. Il faut clairement cadenasser cette éventualité. Et les promoteurs n'ont pas leur place à Bruneau aujourd'hui. Il faut qu'on puisse travailler sur la qualité du bâti. Nous avons un bâti qui est de 58% qui a été construit avant 1945 et donc ça veut dire qu'on doit travailler sur la rénovation et l'aide à la rénovation.
Pierre Gérard, votre avis, il faut aussi réguler ce type de projet?
Oui, je rejoins aussi l'Ensemble pour Bruneau. Il faut d'abord rénover l'existant, réhabiliter, redonner de la beauté au bâti existant, plutôt que de faire des projets comme le Marais des Pins, dont on ne comprend d'ailleurs pas trop comment il a pu avoir son permis, dans la mesure où il ne s'intègre pas du tout dans le bâti. Et puis il faut toujours garder le caractère rural des villages, garder des espaces entre les villages, du vide en fait aussi. Avoir de l'espace, oui.
Charles Desseveaux, pour vous, la ruralité à Bruneau face au projet immobilier?
Tout d'abord, je suis déjà un peu étonné Et je suis content de l'apprendre que le projet de l'écoquartier ne se fera pas. Et je suis quand même étonné de l'apprendre à un mois des élections, en sachant que visiblement ils sont au courant depuis bien longtemps. Et donc ça revient aussi à la communication vis-à-vis du citoyen. Le citoyen n'est au courant de rien par rapport à ce qui se passe à Brunehaut. Et concernant, oui, les gros projets immobiliers, nous souhaitons les réguler pour vraiment conserver cette ruralité. Mais on souhaiterait surtout aussi penser aux citoyens de Brunehaut qui habitent ici déjà depuis Perfet, j'ai envie de vous dire. Parce que j'ai encore ici, il n'y a pas longtemps, parlé avec des gens de la rue du Bélois qui m'ont dit « Oui, mais nous, ça fait 30 ans qu'on habite ici, on n'a pas de trottoir. » Et là, on va faire un grand projet immobilier, ils vont avoir un quartier tout rénové pour eux, trottoir, égouttage, tout ce qu'il faut. Et nous, ça fait 30 ans qu'on attend pour un trottoir. Et je pense qu'il faut aussi remettre une priorité aussi à Brunehaut. Il faut aussi penser aux citoyens de Brunehaut et pas forcément au futur pour l'instant.
Pierre Wauquiez, après je reviens vers vous, Charles Desseveaux. Ça fait deux fois qu'on vous targue d'un manque de communication. C'est quelque chose qui pêche. Il vous reste 7 secondes.
J'ai vu. C'est un projet privé et c'est un décret. Donc, quelque part, voilà, il faut s'informer des décrets. Ce n'est pas nous qui avons dit il n'y a plus de projet. Hein. Voilà, c'est comme ça.
Mais vous pourriez communiquer.
C'est tout le monde le sait. C'est public.
Apparemment, ce n'était pas le cas pour aujourd'hui, Charles Desseveaux. Vous dites aussi qu'il faut respecter les critères d'accessibilité.
Voilà, je pense que pour tout futur gros projet immobilier à Brunehaut, je pense qu'il faut aussi respecter ces critères en ayant une sorte de quota pour avoir des logements adaptés pour les personnes à mobilité réduite. Et ça, je pense que ça doit être une obligation au niveau de la commune pour tous les gros futurs projets qui pourraient arriver ici à Brunehaut.
Est-ce que c'est nécessaire, ces gros projets? Est-ce que c'est une entité qui doit voir sa population croître ou bien il faut plutôt rester...
Moi, je pense qu'au niveau de la population, on est à un bon niveau. Maintenant, comme ça a été dit tout à l'heure, il y a plein de maisons inhabitées. Il y a plein de maisons qui ne sont pas occupées. Si, il y en a. Et je pense qu'il faut, au lieu de taxer au maître de façade une maison qui n'est pas habitée, je pense qu'il faudrait revoir la formule pour que ces gens soit la vendent, soit la rénovent, soit la louent. Mais il faut occuper d'abord ces lieux qui ne sont pas habités et après, par la suite, construire.
Il y a aussi parfois des mesures qu'on peut imposer aux investisseurs. Très rapidement, Pierre Gérard, Nadia Elalil, il vous reste quelques secondes. Qu'est-ce qu'on pourrait imposer aux investisseurs qui souhaiteraient bâtir comme ça dans Brunehaut? Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que ce qu'ils créent, eh bien, soit bénéfique aussi pour la population?
Alors, on peut déjà leur imposer, en tout cas aujourd'hui, des cages à poules. Ça ne va pas. Il faut construire correctement et donc avoir des petits terrains, construire un maximum sur ces terrains. Ce n'est pas possible. Imposer aussi...
Rapidement, il vous reste 10 secondes.
Oui, juste imposer tout ce qui est voirie, donc les trottoirs et aménager les abords.
Pierre Gérard, pour le mot de la fin de cette thématique, il vous reste 40 secondes.
Mais les gros projets en soi ne sont pas nécessairement gênants. Il faut juste qu'ils s'intègrent et qu'ils soient dans des lieux qui s'y prêtent. Donc, et alors aussi que la commune ne prenne pas en charge systématiquement les éléments négatifs. Par exemple, au Marais des Pins, ce qui nous dérangeait également, c'est que la commune prenait à sa charge après les problèmes potentiels d'eau. Et donc ça, ce n'est pas normal. Il y a d'autres solutions qui peuvent être trouvées. Et puis également, on peut imposer comme disait Charles, un quota pour les personnes handicapées, par exemple, et la mobilité réduite, plus accessible. Enfin, il y a des choses à faire pour que la population puisse s'y retrouver.
Nous voilà donc arrivés au terme de cette première partie de débat. Nous allons maintenant aborder la mobilité avec d'autres candidats. Pour aborder ce thème de la mobilité, nous avons d'abord demandé l'avis des habitants de Brunehaut sur la mobilité avec ce micro-trottoir.
La mobilité, ils seraient bien contents de les refaire. Les cyclables, c'est horrible.
Je pense que c'est déjà bien. Il y a déjà les taxis du CPAS. On a desservi par une ligne de bus qui est quand même intéressante. Donc je crois qu'on n'a pas à se plaindre de la mobilité ici à Brunehaut.
L'état est pas trop mal. Après, je pense que les pistes cyclables sont à améliorer. Après, on ne sait pas faire l'impossible non plus, comme dans les six chemins. En fait, tout dépend aussi comment les gens roulent, quoi. Si les gens décident de passer en même temps, c'est sûr que ça ne va pas aller. Mais à part ça, je pense qu'il y a moyen que ça roule bien quand même.
Les routes, ils sont dégueulasses. Enfin, les trottoirs, ils sont dégueulasses. Il faut désherber, mais bon, maintenant, on ne peut plus le faire de toute façon.
Plus de pistes cyclables, je veux dire, parce qu'on n'a pas beaucoup de pistes cyclables tout près de l'Eda. Plus de cyclables et... Quoi dire, plus de contrôle aussi de vitesse aussi.
Il faut faire la part des choses en fonction de chaque village. Il y a certains endroits qui sont aménagés où c'est un peu comme en Hollande, où la piste cyclable est bien protégée de la route. Si c'était l'idéal, ça c'est l'idéal. Maintenant, il faut voir toujours si c'est réalisable.
On vient de l'entendre, les citoyens interrogés veulent plus de place pour la mobilité douce et en particulier pour les cyclistes. Clara Urbain, dans votre programme, vous avez imaginé des autoroutes à vélo. C'est quoi ça ?
Oui, des autoroutes à vélo. Ben, en fait, c'est un peu comme dans l'esprit de notre Ravel, donc qui rejoint Bléhary à Olin. Donc, ce sont des pistes cyclo-piétonnes en site propre, donc qui sont vraiment mises à part de la route. Et donc, c'est un projet qui nous tient à cœur. Et le projet qui nous tient le plus à cœur, c'est aussi la liaison entre Jolin et Oise. Et on aimerait en tout cas développer ces autoroutes un peu plus en entité pour que les cyclo-piétons puissent circuler en toute sécurité.
Et il y a une réelle nécessité de posséder des autoroutes à vélo ou on ne peut juste pas se contenter de pistes cyclables normales, entre guillemets ?
Parfois, les pistes cyclables normales, vu la largeur de la route, ne sont pas toujours faisables. Donc, il y a des pistes parfois qui sont suggérées, mais ça ne sécurise pas bien le vélo. Et on pense vraiment que pour leur sécurité, leur bien-être, ces autoroutes à vélo sont bénéfiques.
Clotilde Desseveaux, au niveau des engagés, vous souhaitez réaliser des liaisons douces, intervillages et transcommunales. Ça ressemble justement à ces autoroutes à vélo ? Ou pas forcément.
Ça pourrait ressembler à ça. Après les liaisons, voilà, c'est essentiellement faire des liaisons du coup entretenues et sécurisées. Donc que ce soit des autoroutes à vélo, que ce soit juste une liaison, une adaptation de la route pour permettre voilà aux cyclistes de voyager librement tout en sécurité. Oui, ça pourrait être très bien des autoroutes à vélo.
François Skitz.
Oui, enfin, je voudrais réagir à ça aussi parce que les autoroutes à vélo, c'était déjà un projet dans le programme du SB il y a 6 ans. Et aujourd'hui, j'ai une question à poser, c'est combien de pistes cyclables ont été faites durant les 6 dernières années ? Ben, c'est zéro. Et donc, à un moment donné, c'est beaucoup de maquettes, c'est beaucoup d'argent dépensé dans des auteurs, dans des auteurs de projets, mais pour très peu de réalisations. Alors qu'à côté de ça, on a des endroits au bord des chemins où il y a de l'emprise, et on a de l'existant qui n'est plus entretenu ou qui n'est pas rénové. Et donc, nous, on veut vraiment partir sur la rénovation de l'existant et utiliser ces emprises sur le bord des chemins pour pouvoir faire des pistes de mobilité douce. Et au-delà de ça, on veut aussi penser plus loin dans la vision, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de mobilité douce, on parle de loisirs. Nous, ce qu'on veut, c'est que le citoyen brunetois puisse rejoindre son lieu de travail, puisse rejoindre son lieu de loisirs via la mobilité douce. Et là, il y a beaucoup à faire vers la ville de Tournai notamment, ou un point intermodal comme la gare d'Antoin.
Clara Urbain, pour rebondir, ça a manqué de concrétisation de projet durant la dernière mandature ?
Moi, je ne pense pas. Donc, il y a notamment la rue de Saint qui a été un beau projet avec là aussi une piste cyclable, des trottoirs qui ont été réalisés. Il y a des pistes cyclables suggérées, etc. Il y a les voies centrales aussi qui sont arrivées, qui vont voir bientôt le jour. Le dossier de l'autoroute entre Jolin et Oise a avancé. Ça a d'ailleurs été voté à l'unanimité, en tout cas la convention de faisabilité au Conseil communal. Et cette convention de faisabilité est signée par le ministre, donc les dossiers avancent.
Les pistes centrales, justement, donc ces voiries où il y a des pistes cyclables de part et d'autre et les voitures au milieu. Chez ICIMR, on dit qu'il faudrait peut-être réexaminer ça.
Exactement.
C'est un peu compliqué.
Oui, tout
Pourquoi
à fait. Parce que on se rend compte en fait que ce dossier a été traité à la va-vite. On n'a pas eu de commission des travaux. On nous a présenté un dossier plus ou moins ficelé. Et dans la concrétisation des choses, on se rend compte que dans le nord de la France, donc notamment à Genève, on a dû diminuer la vitesse à 30 km/h pour sécuriser en fait le cycliste, parce que finalement, on se retrouve en face à face. Et nous, en tout cas, on souhaiterait qu'il y ait une commission consultative du territoire et de la mobilité qui soit créée à Brunehaut. Ce n'est pas une obligation légale, mais en tout cas, nous, on souhaite qu'elle soit créée pour pouvoir analyser ce genre de situation et de projet où finalement, le citoyen a toute sa place. Et donc, grâce à cette commission, on pourrait avoir leur avis. C'est en tout cas essentiel pour nous parce qu'on se rend compte que les citoyens ont peur de l'arrivée de ce projet à Brunehaut.
Qu'est-ce qui est si inquiétant dans ce projet ? Parce que finalement, les vélos, ils ont toujours eu le droit de rouler des deux côtés de la route.
Bah, disons que la manière dont c'est réalisé met le cycliste en position de tampon entre les véhicules dans les deux sens. Et donc, finalement, cette situation pourrait insécuriser le cycliste.
Clotilde Desseveaux, votre avis par rapport à tout ce qui vient d'être dit ici même ?
Oui. Bah, moi, je dis Pourquoi pas après ces routes-là. Donc ce serait l'occasion de proposer des pistes cyclables de chaque côté de la route. Après oui, il faut voir un petit peu ce qui a été fait déjà dans les autres communes, voir un petit peu le retour du citoyen. Pour moi, comme, un peu comme Muriel le dit, il faut aller plus loin dans l'idée, enfin, il faut y réfléchir plus et peut-être reprendre les recueillements du coup, oui, des citoyens.
Dans la participation citoyenne, c'est quelque chose
toujours
qui manque.
Oui, c'est quelque chose qu'il y a déjà à Bruneau, mais qu'on doit peut-être encore mettre plus en avant. On a déjà le comité de PCDR qui est très bien, mais pourquoi pas peut-être encore faire plus et proposer plus de réunions, intégrer plus de citoyens. Enfin, je pense que oui, comme on parlait de la communication, ok, il y a la communication par rapport au conseil et citoyens, mais il y a le citoyen aussi qui doit savoir venir communiquer vers nous. Donc pour moi, oui, c'est important.
Ça doit aller dans les deux sens. François Skiz, dans le micro-trottoir, on a entendu le rejet de certains citoyens concernant l'état des voiries communales. Vous, dans votre programme, on suggère l'engagement d'éco-cantonniers pour veiller à cela. C'est même votre toute première position. Qu'est-ce que cela signifie?
Tout à fait. Donc, ce sont des éco-cantonniers responsables. On insiste là-dessus parce que ça n'est pas simplement un cantonnier qui va ramasser les déchets et nettoyer les routes. On veut responsabiliser un employé, donc un ouvrier de l'administration communale par village pour gérer vraiment tout ce nettoyage des voiries. Donc, il va coordonner, il va aller à la rencontre des citoyens et il va remonter à la commune les besoins, s'il y a des besoins un peu plus importants d'outillage pour l'aider à nettoyer les voiries. Et donc, c'est vraiment important sur ce côté responsable. Vous savez, à l'époque, dans les villages, il y avait non seulement un cantonnier, mais il y avait aussi un champêtre. Aujourd'hui, ce qu'on voudrait, c'est retrouver une personne référente comme ça, qui soit au contact de la population, qui nettoie les routes et qui dialogue avec la population. Parce que parfois, ça peut être aussi des citoyens qui doivent nettoyer leurs abords. Et donc, il y a un dialogue qui doit s'instaurer. Encore une fois, on part dans la participation citoyenne.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Dans les différents sujets, c'est toujours la communication, la participation qui semble poser problème. Cette idée d'éco-cantonnier, c'est quelque chose que vous pourriez suivre chez...
Alors, je suis très contente parce ICMR. Que ça faisait partie de notre programme en 2018 et ce qui me déçoit finalement, c'est que François était dans la majorité pendant plusieurs années et ne l'a jamais mis sur la table. Donc, en tout cas, je suis très contente que ça soit mis en avant. Si ce n'est que nous, on voudrait qu'il soit rajouté une plateforme numérique de communication entre les citoyens pour que justement, le citoyen puisse dire là, il y a un problème d'égouttage, là, il y a un problème d'entretien, et finalement, qu'il y ait plus de communication et qu'il y ait plus d'entretien des pistes cyclables, des trottoirs, des cimetières, parce que les cimetières, c'est une catastrophe. Et donc, cette plateforme numérique pourrait en tout cas amener de la communication entre le service ouvrier et les citoyens. Et évidemment, l'important, c'est qu'ils aient aussi un accusé de réception et un retour. Ça sera fait dans tel temps. Et on pourrait aussi également mettre en avant tout ce qui est déjà fait, parce que le citoyen ne sait pas ce qui est fait sur Bruneau. Et donc, il se pose beaucoup de questions.
Clara Urbain, vous êtes attentive, on le voit dans ce débat. Ce sont des choses que vous prenez pour compte et pour lesquelles vous pourriez aussi étudier la faisabilité de ces projets-là.
Oui, alors nous, on part pas sur un éco-cantonnier par village parce qu'au niveau de la RH, ça nous semble un peu compliqué, mais on part plutôt sur un renforcement de notre brigade verte qui permettrait donc de pouvoir entretenir nos voiries. Au niveau des cimetières, on partirait aussi sur une végétalisation de ces cimetières. Et au niveau de la communication avec le citoyen, effectivement, elle est importante. Et là, dans notre programme, on a un préférendum qui recueillerait en fait l'avis des citoyens et qui permettrait de faire le relais entre le citoyen et la commune, en tout cas, les intégrer dans nos décisions.
Un référendum, qu'est-ce que c'est exactement?
Oui, un référendum, bon, ben, c'est simplement quand on a des grands projets ou par exemple, je prendrai les voiries centrales, etc. Les voies centrales, c'est bien une période test, ça je tenais aussi à le préciser. C'est de lancer, en fait, c'est un peu comme un référendum, un préférendum de lancer un avis, de demander l'avis aux citoyens par rapport aux projets, aux grands projets dans l'entité.
Et avant même de les figer dans le marbre, alors.
Voilà,
valide.
Tout à fait.
Revenons aux questions de mobilité stricte. Clotilde Desseveaux, vous prenez aussi des contrôles plus fréquents pour limiter la vitesse dans l'entité.
Oui, bah on le sait, la vitesse est un problème, pas qu'à Bruneau, je pense que c'est dans toutes les communes. Après, évidemment, c'est pas nous le conseil qui allons mettre les procès-verbaux. Pour moi, c'est il faut travailler du coup avec la zone de police et renforcer les contrôles routiers. Il n'y a pas d'avance. On peut mettre, je pense, tous les systèmes en place sur nos routes, des chicanes, des dodanes et tout. Je pense que le problème de la vitesse, voilà, à part renforcer les contrôles d'un point de vue police, je ne vois pas trop ce qu'on
peut faire. Des radars tronçons, par exemple.
Par exemple, voilà, oui, ce sera tout ça. Il faudra discuter, du coup, avec la zone de police pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place, vraiment mettre un plan stratégique concret contre ces excès de vitesse.
Oui, parce qu'il y a beaucoup d'administratifs pour les policiers, donc c'est assez paradoxal de leur demander de faire plus de tâches pour finalement pas beaucoup plus de temps dans l'immédiat. Est-ce que c'est réalisable, ça?
Alors
faire
là,
plus de contrôle.
J'ai pas toutes les infos. Moi, je dis, en tout cas, le problème est là. Il y a de la vitesse, les gens roulent vite. Pas tous les gens, évidemment. Donc, il faut trouver une solution à cette problématique. Pour moi, se tourner vers la zone de police... Voilà, ça me paraît être la meilleure des solutions. Après, il faudra évidemment en discuter et trouver ensemble la solution pour ce problème.
Clara Urbain, vous prenez aussi dans votre programme des radars tronçons, notamment à Bléhary. Pour vous, c'est oui. Vraiment une solution à adopter?
Je pense, je rejoins un peu Clotilde, la vitesse est un vrai fléau et le seul moyen pour réduire cette vitesse, on pense que c'est le contrôle. Et le radar tronçon permettrait, on pense en tout cas sur les grands axes, de réduire la vitesse. On a un radar tronçon qui nous a été promis par la région Wallonne à la rue du Pont de Molde à Bléhary. Donc on espère que le projet sera concrétisé rapidement et on aimerait le voir en tout cas se développer sur nos grands axes.
On vous l'a promis quand ?
Ici, cette année, en début d'année.
Donc on devrait bientôt le voir arriver. Muriel Delcroix, vous, eh bien, ce sont les feux tricolores que vous prenez dans votre programme.
Alors les feux intelligents, mais en tout cas je suis contente, ici on apprend beaucoup de choses, on a bien fait de venir, je ne sais pas vous les autres candidats, mais on apprend beaucoup de choses aujourd'hui.
Les citoyens aussi, j'imagine.
Oui, c'est ça, c'est vraiment... On a bien fait de venir. Donc oui, nous, en tout cas, les feux intelligents, notamment la rue du Paradis, on pense en tout cas que ça pourrait être un bon dispositif. Mais moi, je dirais quand même qu'il y a quand même certains projets actuels qui pourraient être revus, notamment par une nouvelle majorité, pour mieux réduire la vitesse. Parce que je pense qu'il y a des anciens... en tout cas, il y a des choses qui sont passées. Il y a des nouveaux...
Vous visez quoi précisément parmi les projets?
Les casse vitesse avec coussin amortisseur. Voilà, il y a des nouveaux modèles qui sont arrivés et je pense qu'il faut revoir les endroits un peu plus stratégiques en termes de vitesse pour y mettre en route des nouvelles stratégies.
Alors on le sait, il y a cette nationale qui traverse Bruneau. Elle est traversée par de nombreux camions. La situation s'est améliorée depuis quelques années, mais qu'est-ce qu'on peut encore faire finalement pour améliorer cette situation, François Skitz?
Oui, je voudrais revenir sur l'approche, parce que nous, en termes de mobilité et de sécurité, on veut vraiment une approche plus globale, plus cohérente et plus surtout concertée. Et donc la CCATM, pour moi, est primordiale parce que Bruneau est une
à nouveau la participation.
Oui, une des dernières communes qui n'a pas cet outil et qui on doit absolument se doter de cet outil. Par rapport à le transit sur la N52, donc on sait qu'il y a un arrêté d'interdiction de transit, mais je pense qu'il faut clarifier la situation par rapport à ça. On sent un malaise autour de cet arrêté. L'arrêté a été pris en 2007 par le ministre Dardenne. Il était conditionné. Est-ce que les conditions sont toujours réunies aujourd'hui? On voit que la signalétique n'est plus présente ni d'un côté ni de l'autre, ou très peu. On n'a jamais vraiment discuté avec les Français pour dire de la mettre beaucoup plus en amont, parce que là, aujourd'hui, le camion arrive à Bléhary, qu'est-ce qu'il fait? Il passe. Et donc, il faut vraiment clarifier la situation par rapport à ça. Aussi, quand vous prenez la route de Saint-Amand, donc dans l'autre sens, vous retrouvez plein d'aménagements qui réduisent la vitesse. Vous ne savez plus faire plus de 60 à l'heure. Alors pourquoi est-ce que nos amis français savent le faire et que nous, on ne pourrait pas le faire dans notre commune?
Alors on va peut-être un peu dévier du thème de la mobilité, mais quand on est à Bruneau, c'est difficile d'éviter ce sujet, celui des éoliennes et de projets d'éoliennes à la plaine. Quelle est votre position à chacun sur ce dossier?
Contre.
Alors je pense qu'il faut vraiment se donner les moyens d'analyser thématique. Il faut vraiment réfléchir en rappelant que l'avis de la commune n'est qu'un avis et que c'est le fonctionnaire délégué qui donne son avis.
On ne sait pas si vous êtes pour ou contre, alors, pour l'instant.
Franchement, il faut se donner le temps de la réflexion.
Clotilde Desseveaux ?
Contre la zone où on va implanter les éoliennes.
Idem, contre la zone.
Vous le dites, il y a ce fonctionnaire délégué qui peut prendre parfois des mesures beaucoup plus importantes par rapport à la commune. Est-ce qu'il y a parfois ce sentiment d'impuissance pour une commune de ne pas pouvoir agir dans des dossiers pareils ?
Alors, c'est effectivement le décret qui est organisé comme ça. Donc, il faut s'y plier. La règle est la règle. Mais en tout cas, il faut, en tout cas, dans ce dossier, se donner le temps d'analyser la chose. Parce que certains ont pu dire que c'est impossible de le mettre dans cet endroit-là à cause du parc naturel des Plaines de Lescaut. Toutes les éoliennes de la région le sont dans le parc naturel des Plaines de Lescaut. Donc, il faut vraiment pas sur un plateau se dire, bah voilà, oui, pour, contre. Il faut vraiment analyser la problématique et la prendre à bras le corps.
Clara Urbain, comment on fait quand on est dans une majorité comme ça pour essayer de faire valoir le sentiment qui prédomine chez les citoyens par rapport à un fonctionnaire délégué ou toute autre instance supérieure?
On a eu un avis à remettre, notamment suite à la RIP. Donc, notre avis était négatif. Donc, je rejoins Clotilde et François. C'est la zone qui ne convient pas. C'est une zone, oui, du parc naturel de Lescaut, mais où on a une biodiversité riche. Il y a un couloir migrateur. La plaine est un point plus bas par rapport aux autres. On ne voit pas du tout l'utilité d'installer des éoliennes à cet endroit-là. Et la commune continuera à se battre. En tout cas, notre groupe continuera à se battre pour que ces éoliennes ne soient pas installées dans cette zone.
Clotilde Desseveaux, sur cette question-là, bon, on a bien compris, pas à cet endroit-là, à la Plaigne, mais est-ce que vous êtes opposé par principe à l'implantation d'éoliennes quelque part dans l'entité de Bruneau?
Non, ben, les éoliennes, c'est l'énergie renouvelable, c'est important, donc c'est sûr. Pourquoi cette décision a été prise pour cette zone-là? Est-ce qu'il vaut mieux peut-être pas travailler avec la commune? Peut-être que la commune sait elle-même où mieux implanter les éoliennes. Les zones, évidemment, après, je sais que c'est tout des calculs en fonction du vent et tout, bien sûr. Mais je veux dire, peut-être d'abord avoir déjà cette concertation avec la commune, parce que non, je pense qu'on n'est pas contre des éoliennes. Mais dans cette zone-là, ça me paraît un peu, évidemment, compliqué.
Dans certaines communes, ce qui se fait, c'est de faire une coopérative et de permettre aux citoyens, peut-être, de subir quelques nuisances de l'éolienne, mais aussi d'avoir quelques profits en étant coopérateur. Est-ce que c'est une piste que vous pourriez suivre, François Schlitz?
Je pense, donc, comme on l'a déjà dit, que l'endroit n'est pas propice, hein, courant migratoire, zone Natura 2000, et je pense que le Bruneautois a déjà contribué avec le parc qui se situe sur Merlin. Hein, donc le parc Saint-Maur se situe aussi sur la commune avec Merlin. Peut-être c'était à ce moment-là qu'il fallait y penser pour la coopérative. Mais vous savez, quand vous êtes sur le plateau, une zone très importante à Bruneau, le plateau de la Pierre Bruneau, et que vous avez déjà trois zones, que ce soit Fontenoy, Saint-Maur ou même plus loin Marquin en Visu, bah, je pense qu'on a déjà bien contribué à la chose.
Clotilde Desseveaux, on parle d'éoliennes. Ah, il y a Charles Desseveaux, tête de liste, qui a parlé de biométhanisation, d'un projet de biométhanisation. C'est quelque chose, justement, qui pourrait venir, si pas en parallèle, venir combler ce problème d'éoliennes sur l'entité, selon vous?
Alors, grande question.
De pouvoir produire sa propre énergie, sa propre chaleur, avec le soutien des agriculteurs, c'est quelque chose qui pourrait être bénéfique et ne pas forcément avoir besoin d'éoliennes?
Oui, bah, pour moi, c'est un projet très intéressant. La biométhanisation, c'est déjà quelque chose qui existe et qui marche. Pourquoi pas à Bruneau, comme Charles l'a expliqué, en faisant participer les agriculteurs, les pépiniéristes, enfin voilà, toutes les personnes qui s'y sentiront concernées. Oui, après, ça allait en lien plus avec notre projet, avec la piscine, mais ça pourrait très bien être une source de chaleur pour les bâtiments communaux.
Clara Urbain, il vous reste une cinquantaine de secondes en matière d'énergie renouvelable. Que pourrait faire la commune?
Bah, effectivement, on est pour hein, l'énergie renouvelable. La biométhanisation, je pense que c'est un projet aussi qui est étudié par IPAL. Donc c'est un projet qu'on devrait prendre en concertation avec nos agriculteurs, avec l'intercommunal également, et pouvoir voir comment ça pourrait se mettre en place dans la commune. Mais tout ça est à discuter.
Ok, ben je vous remercie beaucoup pour ce débat. Nous allons passer à la dernière partie avec les jeunes candidats. Pour cette dernière partie du débat sur l'entité de Bruneau, nous donnons la parole aux jeunes. Les plus jeunes de chaque liste sont présents sur ce plateau. On commence par vous, Louise De Jong. Quelle est votre proposition pour la jeunesse de Bruneau?
Alors, on en a plusieurs pour la jeunesse de Bruneau. Dans un premier temps, on aimerait créer une maison de jeunes qui serait un peu atypique parce qu'elle serait tournante au sein des villages de l'entité. Les jeunes seraient bien évidemment encadrés par des animateurs et ou éducateurs de la MOGREN avec qui la commune a déjà un partenariat. Et qu'est-ce que feraient ces jeunes? Ce seraient des activités manuelles, des soirées films, des ateliers cuisine, etc. Ensuite, on aimerait instaurer un pass culture avec, par le biais d'une supracommunalité avec par exemple la ville de Tournai. le pass culture se présenterait sous la forme de chèques pour avoir accès gratuitement ou à prix réduit, par exemple à des événements organisés par la Maison de la Culture ou les entrées de musées de la ville de Tournai. Également l'instauration de chèques stages. Et un dernier point, ce serait vraiment pour promouvoir encore plus de sport, un second Agora Space, puisque le premier il est à Guigny, donc pour certains ça peut être parfois compliqué de se mouvoir jusqu'à Guigny. Et pourquoi pas la création d'un terrain de paddle, je sais que le dossier a déjà été étudié, et donc trouver un endroit sans nuisance.
Vous êtes déjà une vraie politique, on vous demande une proposition, vous nous en sortez trois.
Rémi Leclerc pour ICMR, c'est particulier pour vous puisque vous êtes conseiller communal sortant. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour faire rayonner davantage Bruneau aux yeux des jeunes ?
Bonsoir. Alors nous, l'un des points phares pour les jeunes serait plutôt un chèque sport, parce que c'est dans le sport qu'on s'épanouit, le sport c'est la santé également. Donc on pensait à quelque chose par exemple d'un chèque sport de 20 euros pour chaque Bruneautois qui s'inscrirait dans un club, n'importe lequel de Bruneau. Entre 2 ans et demi et 18 ans, c'est plus ou moins 1500 personnes. En considérant que tout le monde ne l'utilisera pas, on peut considérer un budget de 15 à 20 000 euros. C'est très facilement finançable, étant donné que la commune, lors de mon deuxième conseil communal, avait malheureusement perdu et a dû payer en fonds propres un subside sportif d'à peu près 70 000 euros. Notre proposition est plus que raisonnable et permettrait de donner l'accès au sport à tous les jeunes.
Et une fois qu'il a ce chèque sport, ce jeune, qu'est-ce qu'il peut faire avec alors ?
L'utiliser comme bon lui semble dans tous les clubs de la commune. Soit un stage, donc soit une découverte du sport, soit pour son inscription annuelle, je pense au football par exemple, c'est une cotisation annuelle, soit réserver des plages horaires dans le Brune Hall. Voilà, il en fait ce qu'il en veut tant que c'est pour le sport.
Théa Godard, pour Ensemble pour Brune Hall, pour vous, quelle est votre proposition phare pour la jeunesse brunehautoise ?
Bah, nous, ce serait déjà les réintégrer dans la commune et surtout aussi créer un conseil consultatif et une maison de jeunes. Pour que le conseil consultatif commencerait après le conseil communal des enfants et pour nous continuer dans la politique et aussi toujours les laisser actifs et justement pour développer des projets pour tous les jeunes de Brunehaut.
Vous êtes vraiment dans la lignée de votre parti puisque à peu près à toutes les thématiques, c'était la question de la participation citoyenne qui a été mise à l'honneur par Ensemble pour Brunehaut.
Agathe Parent, quelle serait pour vous la mesure phare à prendre pour les jeunes ?
Alors, la mesure phare, ce serait tout d'abord les Agora Space. Pour éviter qu'il n'y en ait que à Guigny, ce serait bien d'en mettre dans chaque village. Comme ça, ils ne sont pas les seuls à bénéficier, en tout cas le village, de cet Agora Space.
Et comment on le protège, cet Agora Space ? Comment on le protège d'éventuelles nuisances ?
Alors, en mettant tout d'abord des éclairages. Après, il y a une idée aussi que nous avons eue, c'est de protéger justement des météos, que les jeunes puissent se rassembler en toute sécurité et par tous les temps, en fait.
Ça manque, ça ?
Je pense, oui.
Alors, vous avez entendu les trois propositions de vos collègues. Est-ce qu'il y en a l'une ou l'autre qui vous parle en particulier ? Vous dites le chèque sport, le conseil participatif, c'est quelque chose qui me parle ou...
Bah oui, toutes les idées sont bonnes à prendre.
Il n'y a pas une qui est favorite ?
Bah, pas forcément.
Et vous, Louise de Jong, même question. Est-ce que dans ce que vous avez entendu, il y a des choses que vous dites, bah tiens, ça, si nous sommes élus tous les deux, nous pourrions essayer de porter ce projet-là ensemble ?
On a également pensé à un conseil des jeunes, puisque, comme Clara l'a dit tout à l'heure, avec le préférendum, on aimerait bien faire la même chose, mais pour les jeunes, pour justement cibler leurs préoccupations et répondre à leurs desiderata.
Comment on fait pour que les jeunes aient un réel attachement avec l'entité Rémi Leclerc ?
Il faut leur donner l'envie de rester à Brunehaut ou de s'y installer. Et moi, je pense que bon, la thématique était déjà fameusement abordée, mais je pense que l'écoute est très importante. Et donc, créer une plateforme interactive avec le citoyen et avec le jeune qui le met au centre des priorités est quelque chose qui serait vraiment très important. Autre chose, pour garder des jeunes, et là, un petit peu plus jeune, mais plus vers mon âge, des jeunes parents, je pense que l'accès aux crèches et des places en crèche vraiment en suffisance, c'est très important, étant donné qu'on ne sait pas tenir l'enfant en règle générale, sauf dans certains cas de télétravail, en même temps que travailler.
Théa Godard, des idées qu'on a entendues ici, comme le chèque sport ou le pass avec la Maison de la Culture. Est-ce que c'est des propositions qui pourraient être soumises à un conseil consultatif de la jeunesse?
Oui, tout à fait. Ça pourrait être discuté justement avec les jeunes, car ce serait dans le conseil consultatif des jeunes, comme la proposition de mettre à l'abri aussi les agoraspaces, comme Agathe l'a dit.
Ok, ben je pense que nous avons fait un très bon tour de la situation. Et chers téléspectateurs, j'espère que vous avez maintenant une meilleure idée des enjeux sur Brunehaut avant de voter ben, le 13 octobre.